Les informations, Adia Chipoukou.
Merci de vous joindre à nous. Voici le sommaire. Grogne à la société minière de Bakwanga en Mbujimayi. Les travailleurs de la MIBA réclament le paiement de leur salaire ainsi que des vivres pour 33 mois. Une réunion a lieu ce matin entre leur syndicat et les autorités de la MIBA. Tension ce matin au centre-ville de Kinshasa. Des jeunes gens ont brûlé des pneus au carrefour de la Poste, devant le supermarché Express et au niveau du rond-point Forescom. Cela après l'incendie hier de CCTV et CKTV. Nous retrouverons notre reporter René Capita qui est sur place. Le FNUAP s'implique dans la lutte contre les violences sexuelles au Katanga. Il sensibilise depuis hier des militaires après avoir recensé plus de 3000 cas de viol l'année dernière. Mesdames et messieurs, bonjour et commençons tout de suite ce journal avec la grogne des travailleurs de la société minière de Bakwanga à Mbujimayi. Ils réclament le paiement de leur salaire ainsi que des vivres pour 33 mois. Ces travailleurs ont observé un arrêt de travail depuis hier soir. De leur côté, les autorités de la MIBA sont en réunion ce matin avec la délégation syndicale pour sortir de cette crise. Les détails avec Cathy Kataï.
Ces bruits, ce sont les travailleurs de la MIBA qui manifestaient hier soir devant le quartier général de la MONUC à Mbujimayi. Ils ont décidé d'observer un arrêt de travail pour obtenir le paiement des arriérés de salaire de mois de juillet, août et septembre 2006. Outre le salaire, ils réclament aussi 33 mois de vivres. Un travailleur explique.
Nous sommes mécontents du fait que nous produisons, mais nous sommes étonnés du fait que jusque-là, il y a le mois de juillet, d'août et de septembre, nous ne sommes pas encore payés. Nous produisons et 33 mois d'arriérés de vivres. Vous trouvez ça un peu normal que les enfants de travail MIBA sont refusés quelque part d'entrer pour aller étudier? Alors, à quel sens allons-nous nous vouer? Nous n'avons pas cessé le travail pour toujours. Nous n'avons ni pillé quelqu'un, ni insulté quelqu'un, mais nous sommes venus ici juste pour vous dire que l'employeur puisse nous rétablir dans nos droits.
Le travail a été perturbé depuis hier soir au site d'exploitation ou polygone minier de la MIBA. Interrogé, le président administrateur délégué a indiqué qu'il était en négociation avec la délégation syndicale, un syndicat très contesté par les travailleurs. Un important dispositif policier a été déployé tôt ce matin dans les endroits stratégiques du camp MIBA et à l'entrée principale du polygone minier. Cathy Kataï, Mbujimayi, Radio Okapi.
Tension ce matin au centre-ville de Kinshasa. Les activités ont été perturbées. Des jeunes gens ont brûlé des pneus au carrefour de la Poste, devant le supermarché Express et au niveau du rond-point Forescom. Ces derniers manifestent contre l'incendie de l'immeuble abritant les chaînes de télé Canal Kin, CCTV et la radio Liberté, médias appartenant au vice-président Jean-Pierre Bemba, candidat au deuxième tour de la présidentielle. Retrouvons justement René Capita qui est sur place.
Alors que la situation sur le boulevard du 30 juin aux alentours de la Grande Poste a semblé reprendre son cours normal aux environs de 10h30, des groupes de jeunes manifestants réunis autour du siège de la télévision Canal Kin et CCTV continuent à chercher à empêcher toute circulation. Tous les axes qui mènent au rond-point Forescom sont barricadés par les manifestants à l'aide des morceaux de pierre qu'ils ont placés sur la chaussée. L'avenue qui mène de la Grande Poste au rond-point Forescom est pour le moment bouchée par les manifestants. Ces dernières ont lancé des projectiles sur les éléments de la police pour poster au niveau de la Grande Poste. De temps en temps, la police a réagi avec des coups de gaz lacrymogène tirés en direction des manifestants. Pour l'instant, les unités de la MONUC se sont déployées en interposition entre la police et les manifestants. Et la situation semble reprendre son cours normal. Depuis le boulevard du 30 juin, René Capita pour la Radio Capi.
La 14e brigade d'infanterie intégrée qui vient de terminer sa session de brassage au centre de Rumangabo, à environ 50 km au nord de Goma, sera déployée dans le territoire de Masisi ou dans celui de Rutshuru. Déclaration du ministre congolais de la Défense, Adolphe Onusumba, qui séjourne encore à Goma en marge de cet événement. Adolphe Onusumba a également réagi à ce que beaucoup au Nord Kivu considèrent comme une véritable menace au processus d'intégration de l'armée nationale, à savoir la déclaration écrite du général déchu Laurent Kunda du 14 septembre dernier. Par cette déclaration, en effet, Kunda menace de s'opposer, y compris par la force, à tout déploiement des troupes brassées dans le territoire de Masisi et dans la chefferie de Bwito en territoire de Rutshuru. Adolphe Onusumba est au micro de Gisèle Cage.
La 14e brigade sera déployée dans le Nord Kivu conformément à l'esprit du plan national stratégique d'intégration des forces armées de la République, et aussi compte tenu des défis à relever dans le cadre de l'intégration de l'armée. Ça peut soit être le Massissi ou alors le Rutshuru.
Le général déchu, Laurent Kunda, vient de signer un document dans lequel il conteste le déploiement des éléments de la 14e brigade brassée, notamment dans le Massissi et dans le Bouito. Il serait prêt à utiliser la force pour empêcher le déploiement de ces troupes. Qu'est-ce que vous allez faire dans ces cas-là?
Les éléments que nous allons envoyer vers le Massissi ou le Rutshuru, ce sont des militaires armés et formés. Et que s'il y a un obstacle, ce sont des éléments qui vont se défendre. Donc ce sont des choses que l'on va vivre et on va gérer au moment où on va y arriver. Je ne vais pas spéculer dessus.
Restons encore dans le Nord Kivu. Là, plus de 700 familles du secteur de Bakano, en territoire de Walikale, sont actuellement contraintes à errer dans différents villages de ce secteur. Selon les humanitaires, ces familles fuient les atrocités commises par des groupes armés opérant dans le territoire de Walikale. Au nord du secteur, les FDLR rwandais, alors qu'au sud, ce sont les hommes d'un certain colonel 106 qui sont à la base de ces nombreux déplacements des populations, alors que les FRDC présents à Walikale s'estiment en sous-effectifs pour contrer l'activisme de ces groupes armés. D'autres vagues de population continueraient à affluer autour du chef-lieu de Walikale, selon toujours les humanitaires dans la région. Le point avec Sylvestre Kilolo.
C'est depuis plus d'une semaine que des centaines de familles ont commencé à aller de village en village à la recherche d'un endroit sécurisé. Les déplacés en provenance des localités de Mtandala, Idipo et Mayuano arrivent progressivement à Boboro. D'autres déplacés proviennent des localités autour du centre de Isangé. Ils convergent vers Itebero. Les déplacés affirment qu'au nord du secteur de Bakano, ce sont des FDLR Interahamwe rwandais qui pillent, violent et prennent des gens en otage, des femmes comme des esclaves sexuels et des hommes comme des porteurs de butins de pillage. Au sud du secteur, par contre, c'est la bande armée du colonel dissident, colonel 106, qui devient de plus en plus active. Selon ses déplacés, d'autres villages continuent à se vider de leurs habitants sur l'ensemble du secteur de Bakano à cause des exactions de ces groupes armés. Toujours selon les familles déplacées, les éléments FRDC basés dans ces secteurs sont en effectif trop réduits pour faire face aux groupes armés présents sur leur sol. Pour les commandants de la 85e brigade basée à Walikale, seule une opération de grande envergure pourrait mettre fin à leur activisme. Goma, Sylvestre Kilolo, Radio Okapi.
Cap à présent sur le Katanga avec ses nouvelles statistiques sur le viol dans cette province. Plus de 3000 cas de viol ont été enregistrés dans le Katanga au cours de l'année 2005. C'est en tout cas ce que stipule le rapport du Fonds des Nations Unies pour la Population, FNUAP, antenne du Katanga. Selon ce document, 70% des auteurs de ces cas de viol sont des hommes en uniforme. Voilà ce qui explique la campagne de sensibilisation de cette instance des Nations Unies pour les militaires et les policiers. Le FNUAP appelle également les responsables militaires à user des moyens qui sont à leur disposition pour que les coupables de viol soient traduits en justice. On écoute un des participants, il est au micro de Colin Juma.
Nous allons essayer de réduire ces taux-là en sensibilisant nos militaires et en appliquant des sanctions sévères. Vous savez qu'ils ne doivent pas se comporter de la sorte. Ils doivent appliquer l'objectif assigné à l'armée, et notre objectif c'est de protéger cette population. On ne doit pas appliquer n'importe quelle violence, que ce soit sexuelle, que ce soit corporelle, aux individus. Et nous allons, dans nos causeries morales, intégrer aussi le sujet sur les droits humanitaires et sur le droit international, sur la protection des civils.
C'est toujours dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles que le FNUAP a accordé 15 millions de dollars canadiens. Alors à Bukavu, les bénéficiaires locaux ont tenu une rencontre hier en vue de former une commission provinciale capable de coordonner les actions de lutte contre les violences sexuelles dans la province. C'était en présence du représentant du Fonds des Nations Unies pour la Population en RDC. Explication de Sidiki Koulibaly, représentant de l'UNFPA au micro de Sifa Maguru.
Ben écoutez, il y a 15 millions de dollars canadiens qui ont été donnés pour les deux provinces du Nord et du Sud Kivu. Et maintenant, par rapport aux activités, chacune des provinces aura un certain pourcentage. Combien chacune des provinces, ça reste déterminé par rapport aux activités qui vont être proposées. Les fonds qui vont être donnés par le gouvernement canadien vont travailler dans quatre domaines particuliers. Le domaine médico-sanitaire, le domaine psychosocial, le domaine judiciaire et le domaine réinsertion et réintégration économique. L'argent va être utilisé dans ce domaine-là. Donc, nous allons travailler avec les ONG qui se sont spécialisés dans ces quatre domaines-là. Les médias seront une commission transversale. C'est-à-dire que dans chacune des commissions, il doit y avoir les gens des médias.
En province orientale, les autorités administratives et coutumières de Piengué, à plus ou moins 100 km à l'est de Bafoua-Sendé, plaident pour la pacification de leur contrée. Ils ont lancé cet appel hier lundi à l'issue d'une séance de travail avec l'administrateur de Bafoua-Sendé, la veille de leur retour dans leurs entités respectives. De Bafoua-Sendé, correspondance avec Jacques Moukonkolé.
En rentrant chez eux ce mardi, ces trois chefs administratifs et coutumiers de Piengué affirment apporter un seul message de l'autorité locale à leurs administrés, sortir de la brousse et regagner leur village respectif afin de s'adonner aux activités quotidiennes. S'ils ne rentrent pas au village, explique Roger Assani, chef de poste de Piengué, les enfants n'iront pas à l'école, les champs ne seront ni cultivés ni sarclés et la famine aura droit de citer. Nous demandons aux autorités de nous sécuriser en mettant fin à ce phénomène qu'ils qualifient de bandes armées. Sinon, même les prochaines élections seront compromises, regrette le chef Assani, qui se rappelle que la dernière attaque de Mai Mai remonte au 30 juillet, le jour même de l'élection présidentielle. Selon ces trois chefs de Piengué, les Mai Mai ont installé leur base à Bayangana, localité à 53 km de cette cité. Ils auraient adressé trois lettres au commandant compagnie FRDC à Opiengué, d'après le major Chrétien Bopeloué, commandant bataillon à Bafoua-Sendé. Dans ces lettres, les maquisards exigent la descente sur place d'une délégation conduite personnellement par le commandant région, accompagné de leurs frères d'armes, Michigan, afin d'amorcer les processus de négociation. Jacques Moukonkolé, Bafoua-Sendé, Radio Okapi.
Et puis, plus de 180 ménages sont contraints d'évacuer la concession de la SNCC à Kindu dans le Maniema. C'est suite à un arrêt de la cour d'appel de Kindu. Ces familles mécontentes de cet arrêt ont adressé un mémo au gouverneur de province pour dénoncer cet arrêt de la cour d'appel. Certains responsables de ces ménages sont interpellés et détenus au bureau provincial de l'Agence nationale des renseignements, ANER en sigle. Le responsable provincial de l'ANER les accuse d'avoir agressé le premier président de la cour d'appel, une interpellation critiquée par le gouverneur de province. Plus de détails avec Sadala Chabani.
Une dizaine de personnes de la ville sont interpellées par la direction provinciale de l'ANER. Elles sont toutes signataires d'un mémorandum adressé au gouverneur de province en guise de protestation d'un arrêt de la cour d'appel, leur demandant d'évacuer la concession dite SNCC. Pourtant, ces habitants déclarent posséder des titres immobiliers valables qui leur donnent droit d'habiter cette partie de la ville. Voulant savoir à quoi l'ANER est-elle concernée par un dossier immobilier, le directeur provincial de cette maison de sûreté civile précise que ses services visent la sécurité du premier président de la cour, M. Roger Mounanga. Selon ses services, le premier président de la cour s'est plaint car le dernier paragraphe du mémo le cite personnellement et attente à sa vie. Cependant, ces interpellations ne plaisaient pas au gouverneur de la province. Pour Colosse Soumaïli, il est des droits de ses habitants de Kindu de s'opposer à un jugement. Les interpeller ou les détenir, c'est enfreindre les principes judiciaires et démocratiques, a-t-il déclaré. Rappelons que ce jugement, qui contrôle au dégrépissement à plus de 180 ménages, est intervenu le mois dernier dans les dossiers qui opposent la Compagnie nationale des chemins de fer du Congo, SNCC en sigle, à la division provinciale des titres immobiliers. De Kindu, Sadala Chabani, Radio Okapi.
En santé, on signale une augmentation du taux de fréquentation des structures de santé dans la zone de santé de Demba. Selon les autorités sanitaires de la province du Kasaï occidental, ce taux est passé de 5% à 45%, ce grâce à l'appui du Comité international de secours, une organisation internationale qui a commencé il y a 2 mois son projet d'accessibilité aux soins primaires. Un programme qui permet à la population de se faire soigner à moindre coût. Pour le docteur Crispin Batubenga, médecin chef de zone de santé de Demba, il est nécessaire de mettre en œuvre une stratégie pour la continuité de ce programme après l'action de l'ONG internationale. Le docteur Crispin Batubenga est au micro de Pierrot Elamegi.
Après évaluation, nous sommes rendus compte que 0,9% sur 100 venaient aux soins. Approche avec IRC, on a fait une subvention des soins où chaque malade adulte paye 300 francs au centre de santé et les enfants de moins de 5 ans payent 150 francs. Nous avons connu une ascension assez vertigineuse, assez importante. Nous sommes passés de 1800 malades au mois de juin à 4940. Il est à noter que pour les CPN, les femmes ne payent rien. Elles viennent les consulter gratuitement et puis elles rentrent. Nous avons constaté que les gens sont venus aux soins et cela est très positif. Et dans ce cas-là, on peut réduire la mortalité et même la morbidité dans la communauté. Nous espérons que la population va continuer à mordre à cet appel pour qu'ils puissent continuer réellement à fréquenter les structures. Pour la pérennisation, les frais qui sont payés au centre de santé, ils sont reversés quelque part dans une banque et là, ils sont gardés pour qu'après l'appui des partenaires, nous puissions avoir un fonds de roulement suffisant pour couvrir les besoins médicaments de la zone de santé.
C'est donc par là que nous mettons un point final à ce journal et merci de l'avoir suivi.